Alors ce matin, comme Michel l'a introduit, on va parler du Dieu qui révèle, Dieu qui se révèle. On va poursuivre notre chemin au cours de Daniel. Alors on arrive à la fin, doucement. Hein. Et moi, aujourd'hui, je vais être un peu le... C'est un peu un trailer de ce que je vais vous donner, un petit trailer qui vous donne envie d'être là la semaine prochaine où on finira, on clôturera. Parce qu'effectivement, en préparant ce message, j'ai vu que Dieu qui révèle ou Dieu qui révèle les choses ou qui se révèle en fait dans Daniel 10, eh ben, il révèle rien dans le sens de... Il révèle que très très peu de choses et ça vient dans Daniel 11 et 12. Donc voilà, c'est un peu comme une mise en bouche où je vous invite à être là la semaine prochaine pour terminer Daniel ou le lire vous-même chez vous, hein, ça c'est toujours encouragé. En tout cas, Dieu révèle déjà des choses. Et c'est quelque chose d'incroyable parce que on veut toujours savoir l'avenir. Alors, pas nous forcément en tant qu'église, mais l'avenir est quelque chose qui soit angoisse, soit donne envie. Et comment savoir, une fois qu'on sait quelque chose, si c'est vrai? De tout temps, de toutes les époques, les gens qui avaient de la puissance, les gens qui étaient riches, les gens qui étaient en place, se sont entourés de devins, d'enchanteurs, de prophètes. Et si on lit la parole, on voit que Pharaon était entouré de personnes comme ça. Des gens qui étaient magiciens, des gens qui étaient dans l'occultisme, parce qu'ils voulaient savoir. Ils voulaient savoir. Conscient de sa petitesse, conscient de sa faiblesse, l'homme est omnubilé par l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer? Et la parole qu'on a chantée, ce précieux trésor, donne l'avenir. Mais on n'en veut pas. Cet avenir, on n'en veut pas. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu silencieux. Beaucoup de personnes qui ne croient pas disent « Dieu n'existe pas, il ne parle pas ». Dieu nous a laissé la parole. Dieu s'est révélé. Dieu s'est révélé entièrement. Il parle. Et lui, il annonce des choses qui sont vraies parce qu'il ne sait pas ce que c'est que mentir. Il connaît le mensonge, mais il ne ment pas. Il sait ce que c'est le mal, mais Dieu est un Dieu qui a choisi le bien et ne saurait mentir. Rien n'échappe à sa souveraineté. Et c'est ce que nous voulons croire. Voilà pourquoi nous ne devons pas rechercher un avenir. Et Jésus développera ça beaucoup plus en avant. De ne pas avoir peur de l'avenir. Et là, Daniel, c'est quelqu'un qui veut savoir, mais pas dans la mauvaise sens, et on le verra. Et avant de lire la parole, je voudrais seulement prier encore, et on lira ces 21 versets.
Daniel 10. Durant la troisième année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belshazzar. Cette révélation est authentique, elle annonce un grand combat. Daniel fut attentif à la parole et il en reçut la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchais à aucun mets délicat. Je ne pris ni viande, ni vin et je ne me frottais d'aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. Le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. Je levai les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin qui portait une ceinture d'or le plus pur autour des reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Quand il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Moi, Daniel, je fus seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas. Ils furent soudain saisis d'une grande frayeur et s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle et mes traits se décomposèrent. Je me sentais défaillir. J'entendis le personnage prononcer des paroles et, en entendant sa voix, je perdis connaissance et je tombai la face contre terre. Alors, une main me toucha. Elle fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis le personnage me dit « Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. » Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai, tout tremblant. Il poursuivit. « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue. Et je suis venu vers toi, en réponse à tes paroles. Mais le chef de royaume perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ce temps-là. Pendant qu'il m'adressait ces paroles, j'inclinais ma tête vers le sol et je restais muet. Et voici qu'un personnage qui avait l'aspect d'un homme me toucha les lèvres, alors je pus de nouveau ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis « Monseigneur, cette apparition me remplit d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de Monseigneur que je suis pourrait-il parler à Monseigneur qui m'est apparu, alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle ?» Alors, celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia. Puis il me dit « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi, fortifie-toi. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Je suis sur le point de m'en retourner pour combattre comme le chef de Perse, et je partirai. Le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. »
Alors on l'a vu, hein, il n'y a pas si longtemps, on a vu Daniel, donc je vais passer le contexte assez vite. Voilà, Daniel, il annonce de grandes choses, on l'a vu dans les chapitres 7 à 12, j'avais expliqué que pourquoi là ça repasse dans la langue, j'allais dire l'anglais de l'époque, pour que tout le monde puisse comprendre que le Dieu qui révèle est un Dieu de vérité. Et c'est pourquoi c'est la langue des nations, parce que Daniel ne cache pas ce qui va se passer. Dieu soit trouvé vrai, les hommes menteurs. Nous avons vu que Daniel, c'est quelqu'un qui est plongé dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui aspire à voir son peuple libéré selon la parole de Jérémie, qu'il méditait. Hein, on l'a vu la dernière fois ensemble. Il méditait, il avait lu selon les paroles du prophète Jérémie. Il dit, on arrive à la fin de l'exil, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et il avait eu cette belle promesse du chapitre 9, hein, je reviens pas dessus, je vous renvoie à ce qui a été dit pour ceux que ça intéresse. Voilà, il doit, Dieu promet un rétablissement du temple, d'Israël, de la royauté, mais non seulement ça, il promet un Messie qui va venir en finir une fois pour toutes, pour les péchés. Et cette fois-ci, l'ange va lui révéler dans les versets, dans les chapitres 11 et 12, quelque chose de très très précis, comme un zoom. Vous savez, Dieu, il a fait une grande fresque, et à chaque fois, dans le livre de Daniel, vous verrez la prochaine fois, il zoome de plus en plus, pour montrer à quel point Dieu est un Dieu de la précision, mais aussi le Dieu qui révèle. Et ça, voilà, comme je le disais, c'est un peu un trailer de la prochaine fois. Là, ici, on va voir ce chapitre 10 où l'ange est le porte-parole qui va révéler. L'ange, il arrive et il va parler à Daniel. Et il y a tout ce chapitre qui met en place. Et je me permettrai, vu qu'on a lu ce chapitre, les 21 versets, j'allais dire, dans l'ordre dont la Bible nous le donne, j'aimerais le faire avec vous, mais dans un autre sens. Dieu qui révèle, et moi, on va partir là, vous voyez, je commence par le verset 12. Parce que Dieu révèle, et c'est Dieu qui prend l'initiative, donc, c'est Dieu qui commence. C'est toujours Dieu qui prend l'initiative avec nous. Et au verset 12, il poursuivit, « Sois sans crainte, Daniel, car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre, à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue, et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. » Voilà, Dieu, c'est un Dieu qui va entendre. Le premier, c'est Dieu, il entend. Il entend les prières de Daniel. Il a entendu sa prière. Et par grâce, il a décidé d'y répondre. Et d'aller lui révéler les choses à venir. Comme on l'a vu, hein, Daniel, c'est un apocalypticien. Si vous devez retenir une chose, ça serait bien. C'est pas un prophète dans le sens, il prophétise des choses. C'est que lui, il a les révélations des choses. C'est pas tout à fait la même chose. Une prophétie, vous savez, une prophétie, des fois, on entend Dieu se repent du mal qu'il voulait faire. Alors, c'est pas vraiment le terme exact parce que Dieu se repent pas. C'est pas directement la repentance dans le sens de mauvaise chose, c'est-à-dire que Dieu donne une prophétie, la prophétie la plus connue, par exemple celle de Ninive, où il dit « encore 50 jours, et Ninive sera détruite si elle ne revient pas de ses mauvais travers ». Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils se reviennent de leurs mauvais travers. Donc il n'y a plus de raison de détruire. Ça, c'est une prophétie. C'est-à-dire que la prophétie, elle est une limite que Dieu donne si les gens ne se reprennent pas. Alors que l'apocalypticien, lui, il dit ce qui va se passer. Peu importe ce que les gens vont faire. C'est des choses qui sont inscrites. C'est pourquoi on a tellement de mal à lire l'apocalypse de Jean, parce qu'on voudrait tout comprendre et tout savoir. Et Daniel est un apocalypticien. Lui, il a les choses qui lui sont révélées. Donc voilà, ça c'est important de le savoir, parce que c'est dans cette manière de comprendre. Il veut intercéder pour son peuple, il veut savoir ce qui se passe, il a déjà vu de grandes choses, mais il dit « reste là ». Et il commence à prier, on le verra, hein. Mais Dieu a entendu. Dieu a entendu. Et ces versets, hein, Daniel, non, je parle de Daniel, mais on a l'impression qu'il parle à un chrétien. Aujourd'hui, on prendrait ce terme. Il dit « sois sans crainte le jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant Dieu ». Ça, c'est les paroles de Jacques ou les paroles de Paul dans leurs épîtres, pour décrire de marcher dans l'humilité, s'attachant à Dieu, renonçant à l'orgueil, comprendre le chemin que Dieu veut nous donner. Là, on a affaire quand même à quelqu'un qui s'humilie. On le verra par la suite. Hein. Mais voilà, ça, c'est le premier pas, c'est que Dieu a entendu. Dieu entend cette prière et Dieu décide de répondre. Et c'est ça qu'on peut retenir en premier point, c'est que on est persuadé, et nous devons l'être, que Dieu nous entend. Et c'est pas évident. Et on va le voir, hein, c'est pas toujours évident de savoir que Dieu nous a entendus. On a foi, on dit oui, Dieu m'a entendu, mais des fois le temps est long. Il m'a entendu, mais est-ce qu'il m'a vraiment entendu? Parce que Dieu semble pas m'avoir entendu, j'ai peut-être pas crié assez fort. Parce que Dieu, parfois, la réponse, elle met du temps. Parce que Dieu révèle, c'est celui qui révèle dans un amour réel, et qui ne dépend pas des délais de réponse. C'est pas parce que Dieu va mettre du temps à nous répondre, qu'il nous aime moins qu'un frère où il va répondre tout de suite, ou répondre différemment. Mais quand on est dans les difficultés, c'est là où il faut se souvenir de l'amour que Dieu nous porte. Parce que ça a été une des premières ruses du diable qu'il a utilisées pour nos parents. Adam et Ève, dans leur place, Satan est venu leur mettre le doute. Ouais, mais est-ce qu'il t'aime vraiment? Si t'interdit quelque chose, est-ce qu'il t'aime vraiment? Faire douter de l'amour de Dieu. Et après, on voit que c'est le Dieu qui va envoyer. Dieu, il envoie des messagers. Et le mot envoyer, c'est malak en hébreu, et ça veut dire ce qu'on a traduit par ange, messager. Angelos en grec. Donc c'est vraiment l'envoyé, le porteur de message, ben c'est l'ange. Et ça, c'est ce qu'on voit dans Daniel 10, hein, versets 4 à 6. Le 24e jour du premier mois, je me trouvais sur la rive du grand fleuve, le Tigre. C'est Daniel qui parle. Je levais les yeux et j'aperçus un homme vêtu d'habits de lin, qui portait une ceinture d'or d'oupase autour de ses reins. Son corps luisait comme de la topaze, son visage flamboyait comme l'éclair, ses yeux étaient pareils à des flammes ardentes, ses bras et ses pieds avaient l'éclat du bronze poli. Il parlait, le son de sa voix retentissait comme le bruit d'une grande foule. Voilà, là, on a l'envoyé qui est là. L'ange n'est que le messager, et il est décrit d'une manière incroyable. Je sais pas, quand on lit ces versets, on imagine Daniel face à ce qu'il est en train de voir, mais il emploie des termes qui sont de son époque, c'est sûr, mais qui sont incroyables. Les reins polis, pour d'autres traductions. Les reins polis, le bronze, quelque chose de brillant, ça nous rappelle aussi certaines descriptions du fils qui doit venir à la fin. Celui qui est embrasé, celui qui est glorieux. Daniel est en train de contempler une apparition du ciel, et c'est pas sans incidence sur lui, ça on le verra après. Mais là, ce qui est important de voir, c'est que la Bible ne décrit pas le messager comme un tout petit angelot tout mignon, avec des bonnes joues, comme on peut le voir des fois dans le contexte que nous on a. C'est pas ça, en fait. C'est quelqu'un qui arrive, qui fait irruption dans la vie où Daniel était, qui fait irruption dans sa réalité, et on verra Daniel dans l'état où il se trouve. Mais là, c'est quelque chose d'incroyable. Dieu, il envoie un messager porteur de sa gloire. C'est un Dieu qui révèle de différentes manières. Là, il va envoyer, il dit « ce message est important, je l'ai entendu Daniel, je vais lui répondre en envoyant un ange ». Et c'est incroyable. Alors bien sûr, j'ai mis une petite note, toutes vos réponses à vos prières, il y a un ange, il ne va pas venir forcément. Et par la grâce de Dieu, merci. Parce que qui pouvons-nous, hein, Isaïe dira la même chose, hein, on le verra plus tard, Isaïe dira la même chose. Voir la gloire du ciel, c'est terrible. C'est terrible. Et c'est pour ça, hein, nous, on a besoin d'une humilité, c'est sûr. Moi, j'ai jamais vu d'ange glorieux dans ma vie, mais je sais que le Saint-Esprit est en nous. Et il est en moi, si on a cru en Jésus-Christ. Et ça, c'est une belle leçon d'humilité, de savoir qu'on n'a pas forcément besoin de voir un ange apparaître, vu qu'on a Dieu qui est en nous. quelle plus grande, c'est-à-dire quelle plus grande révélation que ceci, quelque chose d'incroyable, quelque chose de vrai. On l'avait dit, hein, Jésus est venu annoncer une bonne nouvelle, et celle-ci est répétée sans cesse, révélée, instruite dans nos cœurs par le Saint-Esprit, jour après jour, semaine après semaine. C'est bien plus que voir une fois dans sa vie une apparition, aussi belle fût-elle. C'est pour ça que j'aimerais qu'on apprenne aussi, et on n'est pas tous dans le cas, mais parfois on veut rechercher le spectaculaire, on aimerait voir ces grandes choses en se disant « Waouh, Daniel, ce qu'il a vu !» Mais aussi, on peut aussi apprendre à se satisfaire, j'ai dit même plus, du miracle que nous sommes tous les jours. Le miracle d'avoir Dieu en nous. Un Dieu créateur, on l'a vu, tout ce qu'il a créé, Michel nous a lu ses versets, et il vit dans les cœurs de chacun. C'est bouleversant, c'est incroyable, c'est miraculeux. C'est plus miraculeux, j'allais dire encore, que cet ange qui vient devant nous, parce que ça c'est qu'un temps, alors que nous on vivra aussi longtemps que le Seigneur revienne avec ça, et après on sera changé en gloire. Alors voilà, c'était juste une petite note pour nous pas envier ces choses, mais comprendre que nous avons encore une étape en plus. Et on voit ce glorieux message qui a été prédit par le Fils, et maintenant en nous, révélé. Mais Daniel, voilà, pour lui, il voit ça. Dieu lui a envoyé un incroyable messager. Et on a aussi un Dieu qui va combattre. Et ça, c'est le verset 13 et le verset 20-21. Dieu, il entend, Dieu, il envoie, et Dieu combat l'ennemi. Parce que Dieu, il a conscience, plus que nous parfois, que l'ennemi fera tout pour nous empêcher de comprendre ce qu'il veut vraiment dire. Et il peut nous empêcher de messager. Vous voyez, un des premiers perturbateurs de nos messages divins, j'allais dire, c'est le diable. Et il n'emploie pas forcément de grandes ruses. Il a juste à nous souffler quelques petits mots depuis longtemps qu'il nous connaît au cœur, et il arrive à nous faire douter. C'est pour ça que Dieu, parfois, il prend l'initiative. Et ça, c'est dans le verset 13. L'ange lui dit « Mais le chef du royaume de Perse s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors, Michel, ça dépend des traductions, est l'un des principaux chefs, est venu à mon aide, et je suis resté là auprès des rois de Perse. » Et l'ange poursuit. Ça, c'est au verset 20-21. Et il me dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi ? Je suis sur le point de me retourner pour combattre contre le chef de la Perse, et quand je partirai, le chef de la Grèce apparaîtra. Mais auparavant, je vais te révéler ce qui est écrit dans le livre de vérité. Personne ne me soutient contre tous ses adversaires, excepté Michel, votre chef. » L'ange révèle à Daniel que les 3 semaines d'attente sont dues à une résistance dans les forces démoniaques, dans un monde invisible. C'est un monde qui l'a intercepté, son message. Les luttes invisibles qui se déroulaient sans que les hommes, ou en tout cas n'en aient conscience, quoi, Daniel n'en ait conscience vraiment. L'ange explique ce délai entre la prière et la réponse. Il explique que Dieu lui avait déjà répondu, et Dieu avait déjà envoyé cette révélation, mais les résistances du prince du monde ont retardé. Parce que le prince du monde, il use de stratèges et d'artifices pour empêcher les plans de Dieu, pour les ralentir. Il nous fait ralentir, et il y arrive bien. Quand on est converti, on est tout feu, tout flamme, et avec quelle rapidité le diable nous ralentit. L'ange révèle également qu'il repart combattre pour le peuple et pour l'accomplissement du plan divin. Mais là aussi, sans trop de surprise, je pense que je ne vais choquer personne, que l'ange déclare que personne ne prend la cause du peuple ni de Dieu. Il dit « Je suis seul ». Dans le sens, personne ne se lève pour intercéder comme Daniel ou comme l'autre. C'est un combat qui est mené, c'est-à-dire sans personne sur terre qui combat. Encore, il y en aura d'autres par la suite, l'Église aura ce projet-là. Mais lui dit, les résistances de ce monde sont telles que, par vous, je suis seul dans ce combat. Le monde est tellement anti-Dieu, qu'il me résiste. Mais tous ses ennemis seront défaits, et ça c'est sûr. On a la présence de Michael ou Michel. Ou Michel aujourd'hui, c'est qui est semblable à Dieu ? Il porte le nom là. Qui est semblable à Dieu ? Et on sait que c'est l'ange protecteur du peuple d'Israël, c'est un chef de guerre. Et c'est lui aussi qui lutte spécifiquement pour le peuple d'Israël. C'est celui qui est envoyé. Et on sait que Yeshua, Jésus, a définitivement anéanti les œuvres du diable. Mais ces luttes existent toujours pour nous aussi. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, dans Éphésiens 6, verset 12, il annonce que c'est contre les puissances de l'air qu'il faut lutter. Il dit « Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est ce même genre d'esprit et de chef dont il est question dans Daniel. Et cela continue encore jusqu'à la fin du monde. Mais là encore, nous, ce qui va nous rassurer, c'est, et je l'ai déjà vu, hein, ces images où on voit un bras de fer entre Jésus et le diable. Non, non. Non, ça n'existe pas, ça. Non, le diable, il est défait. Il n'y a pas de bras de fer, en fait. Il n'y a pas de force égale où il y aurait peut-être, tout peut arriver, l'issue est incertaine. Non, là où vous devez être convaincu, c'est que peu importe les luttes, Satan, il est perdu. C'est la victoire totale de Christ. À jamais. À la croix, tout a été réglé. Ça ne veut pas dire qu'il ne nous envoie pas des problèmes. Ça ne veut pas dire que tout est rose et on est assez, j'allais dire, clairvoyant pour allumer la télé et voir que le monde, eh ben, c'est pas le monde de la Bible encore. Promis. On voit qu'il y a encore du mal. Mais il n'a pas gagné, en fait. Le mal que l'on voit, c'est une attaque du diable, car il sait qu'il a peu de temps. Mais il est vaincu. Nous, on a la chance, on suit un général qui a vaincu la guerre pour nous. Et on ne donne que des dernières batailles d'un ennemi en déroute. Et pourtant, on se bat, enfin là je parle pour moi, je me bats tellement mal et tellement avec la crainte, alors que pourtant Dieu a vaincu en Jésus-Christ. Alors luttons patiemment avec l'aide de Dieu, avec ses armes, pour être sur la brèche. Et ça peut nous aider à comprendre que pourquoi parfois il y a un temps de réponse, un délai entre ce que nous avons demandé. C'est pas toujours le cas, mais ça peut l'être. Et on voit aussi que Dieu va relever, il va révéler, mais avant de révéler, il relève. Ça, c'est dans Daniel 10, verset 10 à 11, et le verset 18, on voit Daniel, il tombe, on s'arrêtera tout à l'heure plus en avant de sur ça, mais voilà, il tombe, il est sans force. Alors une main me toucha, elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur mes paumes des mains. Puis la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse, mets-toi debout où tu es, car j'ai été envoyé vers toi pendant que tu prononçais ces mots. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevais tout tremblant. Et au verset 18, « Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha et me fortifia, puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé de Dieu, que la paix soit avec toi, fortifie-toi et prends courage. » Pendant qu'il me parlait, je repris des forces et je lui dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que Dieu ne reste pas insensible aux difficultés de Daniel. Daniel, il voit la gloire du ciel. Et en la voyant, il défaillit. Mais Dieu, au lieu de s'imposer, je vais te dire ça, et puis s'en prendre conscience de la faiblesse, avant de révéler, il console, il relève, il réconforte. Dieu ne s'impose pas d'une manière absolue comme un tyran qui dit « tu dis ça » au point de voir l'homme écrasé, ce qu'il pourrait faire, sous sa puissance, sous sa révélation. Non, il désire avoir une communion avec sa créature. Il désire avoir une relation avec sa créature. Et le messager agit avec toute la miséricorde de celui qui l'envoyait. Et il encourage son auditeur. Daniel s'enforce. Il est rassuré et tout tremblant. Puis celui qui avait l'aspect d'un homme le touche et il est remis sur pied. Avant de révéler quoi que ce soit, Dieu prend soin de Daniel et il veut faire une relation de confiance. Il est un grand Dieu en qui on peut faire confiance. Il n'est pas un Dieu qui va venir s'imposer, marcher. Il veut que celui qui va avoir la révélation prenne conscience de la grandeur, mais aussi de l'amour et de la bienveillance de celui qui l'a envoyé. Et dans son amour, malgré ses épreuves, Daniel est son bien-aimé. Et il va lui révéler quelque chose. Mais avant, il le rassure. Avant, il le rassure. Et ça, c'est beau parce que on voit tout ce que nous avons eu. On a été rassurés. Jésus est venu, il a dit « Le péché vous sépare. » Et ça, c'est dur à entendre. Je lisais encore dans Jean, qu'on fait la lecture biblique, où à un moment donné, dans Jean 6, des disciples arrêtent de le suivre. Parce que ce qu'il dit, les mots que tu dis, ce que tu es en train de dire, on peut pas l'entendre. Et il dit, à partir de là, certains arrêtèrent de le suivre. Mais Jésus ne se leurrait pas sur leur cœur. Mais ce que Jésus a dit après, c'est qu'il rassure. Oui, c'est difficile. Oui, il y a des choses incroyables. Mais moi, je vais payer le prix à la croix. Et alors, on pourra poursuivre. Il prend soin aussi de notre état dans lequel nous sommes. Et là, donc nous avons le côté de Dieu, et maintenant on va voir le côté de Daniel. Daniel, un homme imprégné de Dieu, ou un homme selon le cœur de Dieu. On a vu tout le côté que Dieu fait, et là on va voir Daniel qui reçoit. Daniel, lui, c'est le passif, c'est lui qui a prié, Mais Dieu, il vient révéler. Et Daniel, il va vivre ce moment, on va voir comment il le lit, et la Bible est très précise là-dessus. Et il va passer par plusieurs stades dans sa révélation. On voit hein, Daniel 10, 2 à 3, Daniel, il est imprégné de Dieu, imprégné d'être un homme selon le cœur de Dieu, et il dit « En ces jours-là, moi, Daniel, je fus plongé dans le deuil durant 3 semaines entières. Je ne touchais à aucun mets délicat, je ne pris ni viande ni vin, et je ne frottais aucune huile parfumée pendant ces 3 semaines. » Daniel, c'est quelqu'un qui va s'humilier devant Dieu. Un cœur humilié, humble. Il porte même atteinte à sa personne pour montrer sa résolution de son cœur imprégné de la recherche pour plaire à Dieu. Sachant que la position qu'occupait Daniel, si au bout de 3 semaines il s'est pas oint, bon, je sais pas s'il avait beaucoup d'amis, mais il ne devait plus en rester beaucoup après. Parce qu'à Babylone, avec le soleil qu'il devait faire, enfin, c'est pas forcément toujours là une bonne résolution que de décider de ne pas se parfumer. De manger ni viande, ni vin, ça va encore. Aucun mets délicat, ça peut passer. Mais décider même de payer de sa personne, au point de même socialement d'avoir des risques sociaux. Mais Daniel, là, il a le cœur à cœur avec Dieu. Il a une saine dévotion pour son Dieu. Au chapitre précédent, on avait vu, il avait pris la sac et la cendre. Et ça, on le faisait qu'en cas de deuil ici en Israël. Mais pour lui, il était tellement dans le deuil, hein, on a vu cette longue prière qu'il avait intercédée, il avait déchiré son cœur, mais aussi ses vêtements, il avait pris le sac et la cendre. Mais on imagine dans la position qu'avait Daniel, hein. C'est quelqu'un qui a toujours eu quand même une certaine position dans les cours royales. Mais il n'a pas regardé à son statut, il a regardé à Dieu. Et c'est le cas aussi aujourd'hui, là. Ça fait ce qu'il fait là ce matin. Dieu, il a le cœur de Dieu et il sait qu'il veut lui révéler quelque chose et il est dans le deuil. Il veut saisir. Il sait que la honte qu'il peut avoir sur lui, ben c'est pas grave. C'est qu'un passage. Il est prêt à ça. Et pour moi, quand je lis ces choses-là, c'est une incroyable leçon. Parce qu'il a un cœur imprégné, il a une volonté de vivre pour Dieu au risque même de la honte, du rejet social. Il est déjà passé par tellement de choses, vous me direz, c'est vrai, mais il a toujours été comme ça. Un cœur imprégné. Et moi, je me suis dit, en préparant ça, je me dis, mais je suis tellement loin. Moi, je veux bien suivre Dieu pourvu que ça ne m'apporte ni la honte, ni le rejet social. Je veux vivre selon mes principes, mais quand c'est facile à vivre avec ses principes. Dès que ça devient difficile, je vais être plus mesuré. Chacun trouve sa limite, moi j'avoue, hein, et je le confesse qu'elle est parfois très rapidement atteinte. Ou soudainement, Dieu devient celui qui se cache. On doit le cacher. Dieu, je le mets dans ma poche parce que j'ai peur des réactions des autres. Alors si je restais 3 semaines sans prendre de douche, je suis pas sûr que ça aiderait beaucoup. Et c'est pas le but, hein, mais je veux là, c'est pour montrer à quel point Daniel, lui, il avait vraiment ce cœur à cœur avec Dieu. Alors nos frères et sœurs qui sont persécutés pour nous, pour moi, c'était une leçon d'aller les voir. Parce que oui, ils vont agir, ils vont chercher l'église alors qu'elle est interdite. Ils vont essayer de se retrouver alors qu'elle est interdite. Une sœur nous disait, ils ont construit un camp de réfugiés, c'était des réfugiés afghans. Dans le camp de réfugiés, ils ont fait une église alors qu'ils savaient que tout autour, c'était que des musulmans et qu'ils risquaient leur vie. Et d'ailleurs, quand ils ont brûlé leur tente où ils se retrouvaient en disant « Vous devez plus le faire », ils ont dit « Bah maintenant, on n'a plus à se cacher vu que tout le monde sait qui on est ». Et ils ont continué à faire des cultes. Quelle leçon d'humilité. Quelle leçon d'humilité. Et Daniel, il est dans cet esprit. Apprenons à vivre selon le cœur de Dieu, à imprégner sans regarder nos valeurs, mes valeurs, mais à regarder à la sienne, à regarder à la croix, conduit par le Saint-Esprit. Et chacun selon ce que Dieu met sur son cœur. Mais voilà, avoir un... C'est le premier pas pour marcher, avoir un cœur comme Dieu. Et Daniel, il est aussi dans le combat. Alors, c'est les mêmes versets. Hein. Il est aussi dans le combat. C'est les versets 2 et 3. Daniel, il est imprégné de Dieu, une vie centrée sur Dieu, et il mène un combat spirituel pendant 3 semaines. Il va se priver de certaines choses pour vivre mieux. Pour vivre selon le cœur de Dieu. Il va lutter lui aussi pendant 3 semaines, parce que nous, on n'a pas la vie quotidienne. Hein. Mais il a conscience, ou pas, qu'il y a quelque chose qui vient. Il a conscience que je veux attendre cette réponse. J'ai prié, je veux attendre cette réponse. Et il est aussi dans ce combat. Et 3 semaines, ça peut être très long. On nous le lit en verset. Hein. Mais 3 semaines, ça peut être très long. Et on n'a pas tous les commentaires qu'il y avait autour. On n'a pas tous les heures de sa vie pendant ces 3 semaines. Nous, il a jeûné 3 semaines. et après l'ange est venu. Mais quel était son cœur pendant ces 3 semaines? On pourra lui demander un jour, mais comment il a tenu bon? Il s'est pas découragé. Il s'est pas découragé, il a poursuivi, il a lutté, il était une partie dans ce combat. Sans peut-être en avoir forcément conscience, mais il a tenu bon. Encore une fois, pour moi, c'est une vraie leçon d'humilité. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde. Alors, pas qu'aujourd'hui, mais disons qu'aujourd'hui, c'est exacerbé. Si j'ai pas tout de suite quelque chose, c'est pas normal. Faut que je l'ai tout de suite. Faut que je le fasse, c'est maintenant. Demain, c'est déjà trop tard. Je veux des réponses maintenant. Si je prie, et puis que j'ai pas la réponse, ah, c'est mort. Dieu, il veut pas ça. Dieu, il veut pas ceci. Dieu, il veut pas là. Ah, j'ai demandé, j'ai pas eu de réponse. Alors, c'est bon. Ou pas. Non, Dieu nous demande aussi de ralentir notre vie. Dans ce monde, ça va trop vite, tout de suite. Mais la vie chrétienne, c'est pas ça. La vie chrétienne, c'est un appel au calme, au cœur plaisible, tranquillisé par le Saint-Esprit, qui est à l'œuvre dans le cœur du croyant. Et les difficultés peuvent être réelles. Elles attendent parfois très longues. Mais on peut apprendre la patience et beaucoup de choses dans les épreuves que Dieu nous permet parfois. Et on peut lutter avec les armes que le Seigneur nous donne par le Saint-Esprit. Et on a besoin des fois de fidélité dans nos prières, c'est pas parce qu'on a prié une fois que le sujet est clos, mais c'est vrai, hein, une information chasse l'autre, et on a déjà oublié. Et Dieu a pas répondu, ah ben Dieu m'entend pas. Et on se refroidit parfois. Et on a besoin de fidélité. Une petite anecdote sur George Muller, alors certains le connaissent peut-être, George Muller est un homme de Dieu qui a eu 50 000 exaucements de prières dans sa vie. Et on est en train de le lire avec mes enfants, ils ont fait une petite histoire pour les plus petits. Ça a mal commencé, je vais pas faire toute son histoire ce matin, mais George Muller est mort avec une prière sur le cœur, où des amis, il avait sur le cœur 2 amis qui voulaient qu'il se convertisse. Et quand il est mort, il y en a un qui s'est converti à son enterrement, et un qui s'est converti quelques années plus tard. Mais lui, il ne l'a jamais su. Mais il n'a pas empêché de prier. Il a prié 45 ans, ou 40 ans, pour ça. Il a eu plein d'exaucements de prières, mais celle-là, il les avait jamais vues. Mais il avait cette espérance de jamais abandonner, de lutter. Donc voilà, ça peut nous encourager aussi à tenir bon, si on n'a pas la réponse toujours, tout de suite. Et après, Daniel, il est dans la révélation. Alors comment il va être dans la révélation? Ça, c'est les versets qu'on a lus qui sont incroyables. Daniel 10, donc 7 et 9 et 15 et 17. Moi, Daniel, je fus le seul à voir cette apparition. Les gens qui étaient avec moi ne la virent pas. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils coururent se cacher. Je demeurai donc seul à contempler cette grandiose apparition. Je perdis mes forces, je devins tout pâle, mes traits se décomposèrent, je me sentais défaillir. J'entendis le personnage prononcer ces paroles et entendant sa voix, je m'évanouis et je tombai face contre terre. Et les versets 15 à 17, pendant qu'il m'adressait ces paroles, je me prosternais la face contre terre et je restais muet. Et voici qu'un personnage, qui avait l'aspect d'un homme, me toucha les lèvres. Et je pus alors ouvrir la bouche et parler. M'adressant au personnage qui se tenait devant moi, je lui dis « Mon Seigneur, cette apparition m'a rempli d'angoisse au point de m'ôter toute force. Comment le serviteur de mon Seigneur que je suis pourrait-il parler à mon Seigneur qui m'est apparu, alors que je n'ai plus aucune force et que j'ai perdu le souffle ?» Daniel est touché mortellement dans son être entier. La glorieuse révélation de Dieu et de son messager sont en train de le tuer. L'homme ne peut voir la gloire du ciel et rester stoïque, et rester tout calme. La gloire du ciel, quand on voit la gloire du ciel, on est éprouvé, on craint, on a la crainte, la honte, le poids de sa petitesse, hein, c'est aussi ce que je disais tout à l'heure avec Ésaïe. Ésaïe demande la mort. Il dit « je vais mourir ». C'est impossible, je ne peux pas voir ce que je suis en train de voir, je vais mourir. C'est la gloire de Dieu qui se révèle face à l'homme, c'est quelque chose de terrible. Et Dieu, il le sait, c'est pour ça qu'il en prend soin, et c'est pour ça que Daniel se sait qu'il est incapable de rester debout face à ça, il est incapable de rester tranquille face à ça, il tombe. Il a besoin d'être révélé, d'être relevé avant qu'on lui révèle. Il a besoin d'être sous la grâce de Dieu. Et on remarque, hein, Daniel, c'est le seul à voir, mais les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'en vont. En courant. Ils vont se cacher. Pourquoi on se cache? À cause du péché. Ça a été le premier réflexe d'Adam, hein. Il s'est caché. La honte d'avoir été séparé d'un Dieu saint. Et eux, ils savent pas ce qui se passe, mais ils vont se cacher. Et Daniel, il dit « je reste seul ». Et il tombe face contre terre. Alors, c'est pas la petite rencontre sympa. Je veux dire, c'est la rencontre de vie ou de mort. Hein. Et pourtant, Daniel a déjà vécu plein de choses. Mais cette rencontre-là, le laisse sans voix. Et il dit « Je vais tomber ». Et Daniel, ça rappelle un peu ce que Paul va vivre plus tard sur le chemin de Damas. Paul va être touché dans son corps, et les ceux qui sont autour vont voir des choses, ils vont être effrayés, ils vont entendre certains murmures, mais ils vont être effrayés, ils vont pas savoir pourquoi. Mais on a cette crainte. Quand Dieu fait irruption dans notre vie, la première chose qu'on a, c'est la honte, la crainte, les pleurs, parce que c'est le péché, on se rend compte de notre état. Face à la divinité de Dieu, on ne peut être que ainsi, brisé. Mais c'est pas, comme on l'a vu, c'est pas comme ça que Dieu veut nous laisser. Et c'est pour ça que Daniel avait mis son cœur et son être au service de Dieu. Daniel avait vu plein de choses, mais cette vision, cette rencontre l'effraie au point de tomber. On peut pas se tromper. La gloire de Dieu est incompatible avec notre mortalité pécheresse. On ne peut pas voir Dieu et vivre, et ça c'est inscrit dans le cœur même du peuple d'Israël. Pour eux, ça a toujours été le cas. La rencontre entre Dieu et les hommes, c'était incroyable. Quand Moïse est sur la montagne, ils disent « Non, non, on peut plus l'entendre. Moïse, sois tout seul à qui il parle et toi, tu nous rediras les choses. Nous, on peut plus l'entendre. » Pourquoi ils peuvent plus l'entendre? Parce que c'est cette crainte absolue de rencontrer son Dieu. Mais la grâce de Dieu agit et Daniel n'est pas mort. Pourquoi préciser que Daniel est comme mort? C'est pour souligner la grâce, comme on a vu. C'est par grâce et par amour que Dieu se révèle et qui relève. Daniel n'avait rien en lui qui lui permettait d'être meilleur que les autres. Et c'est par amour et par grâce que Dieu a envoyé Jésus-Christ Yeshua pour qu'on puisse appliquer sa justice tout en appliquant son amour. Ne pensons pas que nous pouvons voir la gloire de Dieu sans que ça ait un impact sur nous. Même si le Saint-Esprit nous permet de vivre des choses incroyables par sa grâce et selon son besoin. Mais si Daniel a défailli devant le messager de Dieu, comment chancellera ce monde impie au retour de Christ? Voilà pourquoi ce monde a deux parties. Voilà pourquoi ce jour a deux noms. Il est le jour glorieux pour ceux qui croient. Parce que nous serons réconciliés avec Dieu. Et sous cela, nous le verrons face à face. Nous avons été réconciliés en Jésus-Christ. Et pour nous, ce jour est glorieux. Mais pour tous ceux qui ne le sont pas, c'est un jour comme Daniel. C'est un jour terrible où ils iront se cacher, mais ça sera trop tard. Parce que si un ange provoque ça, quelle sera la magnificence du Fils qui revient? C'est pourquoi nous avons aussi un besoin de se souvenir que Jésus s'est révélé à nos cœurs. Nous avons tremblé devant notre péché. On n'a pas forcément eu besoin de grandes apparences, d'apparitions, comme je le disais. Simplement le Saint-Esprit qui nous convainc. Cette parole qui nous a convaincus de péché. Et dans sa grâce, Dieu nous a envoyé le Consolateur. N'oublions pas la gloire de Dieu et sa grâce imméritée envers nous. Et nous sommes possesseurs encore de la plus grande révélation que Daniel. Bien que nous ne soyons pas des apocalypticiens, nous avons la connaissance que Christ est mort pour chacun de ceux et celles qui mettent sa confiance en lui. Donc ça, c'est dans son état. Un état terrible. Et Daniel est la révélation, alors qu'est-ce qu'il va en faire? Ça c'est le Daniel 10, versets 1 et 14. Ça c'est l'introduction qu'on a lue tout à l'heure. « Durant la troisième année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel, nommé aussi Belshazzar. Cette révélation est authentique, elle annonce de grandes calamités. Daniel fut attentif à la parole et en reçut la compréhension dans une vision. » Et le verset 14. « Je suis venu, ça c'est l'ange qui parle, je suis venu pour te faire comprendre ce qui arrivera à ton peuple dans l'avenir, car c'est encore une vision qui concerne ces temps-là. » Daniel a reçu une véritable vision, authentique, réelle, une révélation. Alors si on était des Grecs, on dirait « apocalypticos », donc c'est une révélation. Quelque chose d'apocalyptique, c'est quelque chose qui tient de la révélation. Vous voyez, quand on passe les noms en français, c'est moins cool, du coup. Je veux dire, tout le monde des fois dit « Oh, c'est un monde, c'est apocalyptique. » C'est juste de la révélation, en fait. Mais les révélations que Dieu fait nous effraient. Et voilà, il est en train de dire, si on devait traduire, cette révélation est authentique, cet apocalypse est authentique. Et Dieu lui a annoncé la compréhension et la sagesse. Il dit « Je vais te donner la compréhension et la sagesse pour que tu puisses savoir ce qui est annoncé. » Et encore, on verra dans le chapitre 12, que Daniel ne saura pas tout, mais c'est aussi une volonté de Dieu. Et ça va s'accomplir. Dieu fait de même pour chacun de nous un autre niveau de vie, là où nous en sommes. Dieu nous révèle les choses, les compréhensions de la parole et de Christ que nous avons besoin. Les révélations que Daniel, nous les verrons la semaine prochaine, se sont réalisées pour la plupart, sont encore en cours de réalisation pour certaines, parce que Dieu ne peut pas faire d'erreur, et sa révélation est pour nous une espérance. Une espérance. Ça sera ma conclusion de ce message. C'est l'espérance. Daniel est un homme dont le cœur était pour Dieu au point de sembler méprisé par les hommes de son rang. Daniel est en lutte, il est en prière, il est en intercession, et ça on l'a déjà vu. Il veut obtenir des réponses pour son peuple pour lequel il intercédait. Nous avons reçu, comme je l'ai dit, une grande révélation. Dans Hébreux, l'auteur souligne ce grand privilège. L'auteur d'Hébreux va souligner dans Hébreux 1, versets 1 à 2, voilà comment il commence sa lettre. Il dit « À bien des reprises et à de bien manières, Dieu a autrefois parlé à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans les jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui héritier de toutes choses et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. » Donc là, l'épître aux Hébreux, l'auteur, il est en train de dire « C'est bien ça, ouais ». C'était une base, mais attention, maintenant il y a quelque chose de plus. Le Fils et son message de la bonne nouvelle sont pour notre plus grand bien. Alors soyons assurés de cette espérance que nous avons en nous, car le monde n'ira pas mieux. Il n'y aura pas de renaissance, d'une justice, de la bonté, de la bienveillance, de l'amour. Ça, si vous lisez, c'est les fruits de l'esprit. Comment ces fruits de l'esprit peuvent-ils sortir d'un cœur sans l'esprit? Il y aura toujours plus de péché, toujours plus de corruption. Et c'est la Bible qui nous l'enseigne, à la fin. Lisez les lettres pastorales de Paul. Il n'est pas en train de dire qu'il va y avoir de bonnes choses sur la fin. Mais dites-vous, vous avez cette espérance. C'est pas la fin. Votre fin à vous, elle va arriver, la fin de ce monde. Mais vous, il n'y a pas une fin. Il y a quelque chose qui ne termine pas parce qu'il y a quelque chose de l'éternité. Notre espérance, elle est en Yeshua, en Jésus-Christ, celui qui revient. Car c'est une glorieuse espérance que Dieu révèle encore aujourd'hui à celui qui croit. C'est pourquoi j'ai laissé ce verset, alors moi je le vois pas bien. Romains 5, verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et ça, si on pouvait le retenir, parce que c'est ça qui doit nous motiver. Voilà, quand on garde confiance dans les révélations que Dieu a fait à Daniel, mais qu'il nous a fait aussi en son Fils.